Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes chats noirs, mes chiens loups, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours sur le dernier épisode avec Justine Lepotier. À la sortie de l'épisode, je ne pouvais pas encore l'annoncer officiellement, mais voilà, ça y est, enfin c'est en ligne, c'est là. Je vais roder mon tout nouveau spectacle, tout frais. Au Cartel. Ce spectacle dont je vous parle depuis des épisodes et des épisodes, où je vais raconter ma rencontre avec Mickaël, ma quête vers lui, entre autres, plein de choses. Ce spectacle complètement nouveau, qui est si proche de la Rosa d'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir dans un lieu totalement confidentiel, unique, nouveau, le Cartel. Ce sera les jeudis à 19h, à partir du 7 mars, pour seulement 6 dates exceptionnelles. Réservez vite, c'est demain. La salle est petite et j'ai envie d'annoncer complet dans un temps record pour pouvoir travailler sur la matière du prochain spectacle plutôt que sur la com pour du remplissage. Je compte sur vous, ces débuts sont encore parfois plus émouvants que les représentations finales. On partage vraiment quelque chose ensemble de naissant. Et comme rien n'est jamais facile, j'ai encore des bugs avec mon Zoom qui n'a pas voulu enregistrer mon poème pour notre invité du jour, l'écrivaine Valérie Zenati. Je vais donc vous lire maintenant le poème que j'avais écrit pour elle. Chère Valérie, c'est une joie de te recevoir enfin dans le podcast. Nous sommes amis de longue date. Nous nous sommes rencontrés grâce à mon père, avec qui tu avais travaillé. J'étais à peu près au lycée, je crois, puis nous avons construit notre propre relation. Nous nous sommes vus évoluer. Tu as toujours été de bons conseils. Je t'admire infiniment pour l'écrivaine, la scénariste, mais aussi la femme que tu es. Si douce, éloquente, intelligente et l'excellente cuisinière. J'ai beaucoup aimé ton dernier livre, Qui vive, et ta dernière traduction, Comment aimer sa fille. Les deux récits se recoupent à l'endroit de la maternité et de la fuite. Je suis curieuse de savoir comment ton travail de traductrice te nourrit. Et toi, qui es de si bons conseils, tu as peut-être une réponse. Comment faut-il aimer ses enfants? Merci Valérie d'être là aujourd'hui dans le podcast. Voilà, et on commence donc l'épisode sur la question du poème à laquelle répond Valérie si brillamment. Bonne écoute.
Merci Rosa. Merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Et c'est vrai que voilà, comme j'ai vu que tu avais donné beaucoup d'interviews déjà sur ton livre, je me suis dit, dans les interviews, ils ont peu forcément recroisé ces deux sorties qui se sont faites à quelques mois d'écart entre la traduction et ton livre, alors que c'est vraiment ça fait partie de ton ADN d'être à la fois au service et en écriture sur toi, quoi.
Oui, c'est vrai. Après, en France, j'ai l'impression que il y a ce cloisonnement qui est brisé par les gens qui travaillent, qui œuvrent et qui n'existent pas en moi, par exemple, parce que je suis à la fois écrivaine pour la jeunesse, romancière, scénariste et traductrice. Et souvent, parfois les gens me disent « Ah, mais il faudrait peut-être que tu choisisses pour qu'on t'identifie d'une seule manière. » Je dis « Mais j'ai absolument pas besoin d'être identifiée. Je m'identifie toute seule. » En revanche, je m'aperçois qu'en effet, les gens ne font pas toujours les liens entre les fils, entre tout ce que je fais, y compris les scénarios, par exemple, qui ont aussi de l'importance pour moi. Personne ne fait le lien avec ce que j'écris ou la jeunesse avec l'adulte. Mais c'est pas grave, moi je le fais. Et puis parfois, les gens comme toi le font. Voilà.
Oui,
il faut des gens comme toi pour décloisonner.
Mais oui, moi je consomme tout. Puis je vois très bien parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut me reprocher. Podcast, mais comédienne ou humoriste ou ce truc de devoir choisir. Et c'est vrai que parfois, limite, on voit des écrivains, écrivaines qui cachent leur activité de journaliste à côté ou qui d'un coup la renient ou n'en parlent plus ou des scénaristes qui s'empêchent d'écrire un un livre. C'est très français, peut-être.
Oui, c'est comme si, en fait, les gens pensaient qu'il fallait qu'un métier ou une activité doit avoir une sorte de pureté absolue pour être crédible. Donc dire « je suis écrivain » et donc seulement écrivain, « je suis scénariste » et seulement scénariste. Sinon, ça fait un mélange, ça fait une sorte de mixité et entre les activités. Et je pense que les gens ont peur de ne pas être considérés pleinement comme ce qu'ils sont. Or, je pense pour ma part qu'on peut être pleinement chaque facette, mais qu'elle se relie aussi. Et c'est ça qui est intéressant.
Et même, tu ne crois pas qu'on cloisonne la littérature? Parce que, je ne sais plus qui m'avait dit ça, que dans les littératures anglo-saxonnes, le récit autobiographique était un peu plus lié à la littérature, alors qu'en France, il y a vraiment le roman. Et ensuite, que l'écriture à la première personne a un peu moins de valeur parfois que la littérature romanesque.
Alors ça, je crois que ça a changé. Ça a bougé avec l'autofiction qui a été décriée et paradoxalement qui a ses lettres de noblesse aussi.
Annie Arnaud.
Évidemment, Annie Arnaud et tous ceux qui se réclament ceux et celles qui se réclament d'elle. Elle a vraiment fait école. Et puis aussi, grâce à des éditeurs comme, par exemple, les éditions du Sous-Sol, il y a tous qui ont édité Déborah Lévy, par exemple. La non-fiction, ce qu'on appelle la non-fiction aussi, a trouvé aussi ses lettres de noblesse en littérature. Donc je crois que de ce point de vue-là, les choses bougent quand même.
Déborah Lévy, elle est anglaise, non?
Oui, c'est ça.
Mais on l'a reçue tardivement en France.
On l'a reçue tardivement. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi... Enfin, c'est important, je signalais le travail des éditions du Sous-Sol, parce que c'est important de savoir qu'il y a, derrière les écrivains, il y a des éditeurs ou des libraires qui s'engagent vraiment et qui font une œuvre de mise en avant de genres qui sont décriés ou qui étaient décriés jusque-là.
J'avais adoré aussi ta série Canal.
Possession.
Oh là là, c'était... ton œuvre, elle est gigantesque. Mais c'est vrai que Possession, j'ai beaucoup aussi repensé récemment. Parce que peut-être que avec ton livre, il y a aussi ce rapport des femmes et des mères et des filles et de l'envoûtement et quelque chose de... Peut-être que c'est en lisant Comment aimer sa fille que m'est revenu Possession sur le secret ou tout d'un coup, le mystère que représente un enfant.
Oui, totalement. Alors Possession, c'est une des grandes aventures de ma vie ces dernières années, de ma vie créative, on va dire. Parce que c'est une série donc, que j'ai coécrite avec un auteur israélien, Shahar Magen. Et on s'est vraiment retrouvés tous les deux autour de cette idée de réinterpréter un mythe qui existe dans la tradition juive d'Europe centrale, qui est le mythe du Dibouk. Donc le Dibouk, c'est un peu gothique, on va dire. C'est une âme, l'âme d'un mort qui ne trouve pas la paix, qu'on a offensé d'une certaine manière et qui revient hanter les vivants. Et donc, il y a toute une pièce de théâtre, de la littérature juive d'Europe centrale. Et nous, on a voulu faire un Dibouk gothique, mais au soleil, on va dire, et le transposer en Israël, dans une famille qui vient d'Orient, qui vient de Tunisie. Mais quand je dis on l'a transposé, c'est-à-dire on a pris donc cette idée d'un presque mort, on va dire, qui revient en télévivant. Mais c'est pas du tout, c'est une série qui peut être vue de manière totalement réaliste. Et ce qu'on a travaillé en particulier, ce dont tu parles, c'est les rapports intrafamiliaux et le rapport mère-fille et ce désir de possession des mères vis-à-vis des filles. Voilà, c'est ça qui traverse toute la série, qui prend des aspects de séries policières, de séries réalistes fantastiques. Il y a tout un mystère, mais au fond, ce qui soutient la série, c'est vraiment le rapport entre la mère, jouée par Dominique Valadier,
incroyable,
et la fille, jouée par Nadia Terestievitz.
Sublime.
Et voilà, ça, Shahar et moi, on l'a vraiment travaillé de manière, très, très jouissive, parce qu'on apportait chacun quelque chose. Lui apportait peut-être son rapport avec sa mère, ton rapport de garçon, mais qui a une part féminine très forte avec sa mère. Moi, j'apportais d'autres choses aussi de ma famille. Il y a une phrase dont les gens m'ont dit que c'était pour eux la phrase de la série, c'est quand la mère, quand la jeune fille Nathalie sort de garde à vue, la mère la prend dans ses bras avec ses deux autres sœurs et lui dit « Je voudrais te remettre dans mon ventre. » Et cette « Je voudrais vous remettre dans mon ventre. » Et cette réplique-là, qui a vraiment marqué beaucoup de gens qui ont vu la série, c'est une phrase qui était prononcée dans ma famille.
Incroyable.
Oui. C'est vraiment une phrase, c'est du vécu. Et cette phrase, je l'ai entendue chez ma grand-mère et puis ensuite chez ma mère. Et ma grand-mère n'avait pas le français pour langue maternelle, elle avait l'arabe. Elle est née en Tunisie et elle parlait en arabe dialectal. Et je pense aussi que parfois elle traduisait des choses venant de l'arabe, des expressions.
Ouais.
Parce que par exemple, quand elle disait « j'ai été gentille avec lui », elle disait « j'ai fait mon cœur blanc pour lui ».
Oh, c'est beau.
C'est magnifique.
Arrête, c'est de la poésie.
C'est de la poésie. J'ai fait mon cœur blanc pour lui. Et je sentais qu'elle traduisait de l'arabe, en fait. Et là, peut-être que je voudrais vous remettre dans mon ventre, c'est peut-être aussi quelque chose qui lui venait de l'arabe et qu'elle traduisait. En tout cas, la phrase était dite.
Wow.
Et après, on en prend pour 20 ans de psychanalyse, le tarif de base. Quoi.
Ah, c'est clair.
Tarif syndical.
Ça, c'est ta grand-mère du côté de ta mère.
Oui, oui. Mais ma mère aussi le disait parfois. Elle nous serrait dans ses bras, je voudrais vous remettre dans mon ventre.
Mmh.
Et quand on a écrit donc, le scénario avec Shahar et que j'ai écrit cette réplique, il en était dingue. Il m'a dit, mais c'est la réplique de la série, parce que ça raconte tout, en fait.
Tout.
En fait, le point de départ, c'était l'idée que l'amour est un danger pour la société, en réalité.
Ah, ouais.
Est considéré comme un danger pour la société. L'amour vient bousculer les codes sociaux, vient bousculer la tribu. Là, c'est la tribu, c'est-à-dire c'est la famille, c'est la communauté. Et donc, il ne peut y avoir que des unions qui sont autorisées par la communauté, quelle qu'elle soit. Qui sont peut-être, qui l'arrangent, qui sont contrôlés, exactement. Et que l'amour, le véritable amour, qui est forcément liberté, est un danger. Mais pourquoi c'est un danger? Parce que ça va remettre en question les liens.
Mmh.
Ça va remettre en question, évidemment, qu'une fille qui tombe amoureuse ou un garçon qui tombe amoureux.
Elle part.
Part.
Ouais.
Et c'est ce refus de voir partir un membre de la communauté.
Ah, c'est génial.
Ouais, donc c'est vraiment ça qu'on a voulu travailler, à quel point. Et je crois que là, l'historien Patrick Boucheron, cette année, donne un cours au Collège de France sur cette question-là, de l'amour et le politique. Et c'est tous les mardis, c'est maintenant je crois, à l'heure où on enregistre malheureusement, donc j'ai pas pu y aller encore, mais...
Si tu vas, je t'accompagnerai volontiers.
Je trouve ce sujet très intéressant.
C'est passionnant parce qu'en fait ça ouvre l'idée dans l'amour des mères pour leurs filles, des filles pour leurs mères, l'amour, trop. C'est-à-dire c'est trop, pas assez, en fait ça... Moi, ça me touche parce que ça pose aussi, de manière plus générale, peut-être la question du désir. Professionnel ou amoureux. Moi, je sais que pendant longtemps, j'avais l'impression que mon problème avec les mecs, c'était de trop le vouloir et que ça leur faisait peur. Et puis, à un moment, ouf, j'ai rencontré un mec qui était sur la même ligne de désir que moi. Donc, le soulagement, tu vois, ça va faire un an. Mais je le vis encore au quotidien, parfois dans le travail. C'est-à-dire d'avoir très envie de quelque chose. Et puis, ça marche pas. Et je me dis, est-ce que je le désirais trop? Et en plus, derrière, je me flagelle. C'est-à-dire qu'aussi, il y a ça, je pense que dans l'amour des mères, il y a la culpabilité de se dire, est-ce qu'on aime bien? Est-ce qu'on a trop aimé?
Ah oui. Cette question-là, est-ce qu'on aime bien, se pose, je pense, dès l'arrivée de l'enfant. Et c'est peut-être pour ça, si je reviens à la phrase, je voudrais vous faire rentrer dans mon ventre, peut-être que c'est aussi une manière de dire que c'est la façon la plus simple d'aimer à l'intérieur de soi. Quand les enfants sont à l'intérieur de leur mère, tout est simple, y compris le fait de les nourrir ou la responsabilité vis-à-vis de l'enfant est très très simple quand une femme est enceinte. Il est là, à l'intérieur,
tout est bien foutu.
Il est nourri, logé, il pleure jamais, il réveille pas. Et l'amour peut être sans limite, puisqu'il est totalement invisible et totalement détaché des contraintes quotidiennes, des contraintes matérielles. Donc je crois qu'il y a peut-être chez les mères la nostalgie de cette fusion. Bon, ça, d'autres que moi en ont parlé, de cette fusion-là, qui est vraiment la fusion prénatale, la fusion intra-utérine, d'être à la fois très libre, parce que quand on est enceinte, on est libre de ses mouvements, d'être à la fois très libre, mais de contenir cet être. Et il y a peut-être cette nostalgie-là d'un absolu. C'est réellement un absolu. Dès la naissance, dès l'arrivée du premier pleur, dès l'arrivée du corps de cet enfant qui est totalement dépendant de ses parents. Et c'est une question de vie ou de mort. Je pense que quand un enfant arrive au monde, ses parents comprennent tout de suite qu'ils ont entre les mains un être dont la vie dépend réellement, à chaque instant. Moi, je me souviens, voilà, petit aparté, mais je me souviens quand j'ai eu mon premier enfant. Quand on est rentré de la clinique, c'était le premier dimanche matin. Il a pleuré à 4 heures du matin. Je me suis dit, mais c'est dimanche.
Ah et puis
dans la seconde qui a suivi, je me suis dit, mais lui, il s'en fiche. Il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de jour férié, il n'y a plus rien. Pour lui, c'est la survie à chaque instant. Et donc voilà, je crois que dans toutes ces questions-là, il faut prendre en compte le fait qu'il y a toute une période qui précède la naissance et qui instaure quelque chose qui est fusionnel, illimité et très facile en fait.
C'est
très
marrant. Facile. Aimer, être amoureux de son enfant, j'ai l'impression qu'aussi chez certaines femmes, il y a aussi des caractères romantiques. Des personnalités peut-être biberonnées à une certaine littérature ou à des rêves, en fait, et que l'amour hétérosexuel vient contredire un peu parce que ça se passe pas comme parfois de manière aussi romantique que tu l'as imaginé. Et donc, la fusion, l'absolu, en fait, va être réparée avec être
l'enfant
que tu vas créer.
Oui, il y a énormément de... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se plaquent sur un enfant. Et en même temps, un jour, une psy m'a dit mais c'est bien aussi qu'un enfant soit investi. C'est-à-dire, s'il n'y a aucune projection sur lui, il ne va pas pouvoir se former réellement. Il faut qu'il y ait des projections. Il en faut pour structurer une sorte d'enveloppe psychique. Et puis ensuite, l'enfant, quand il grandit, il fait avec ses projections. Soit il s'y conforme, soit il les dénonce, soit il va aller contre, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais ces projections-là sont importantes. Donc, dans un enfant, je crois qu'il y a autant de désirs d'enfant que de femmes et d'hommes, réellement. Il y a vraiment ce fantasme de jouer à la poupée, pour certains. Moi, je connais des mères qui jouent à la poupée avec leurs enfants et qui rejouent quelque chose de très infantile comme ça, qui les rassure, ou des femmes qui ont l'impression de pouvoir devenir femme uniquement en devenant mère. Donc en étant à la hauteur de leur propre mère d'une certaine manière, ou en limitant. Et puis d'autres qui ont aussi, ça c'est très drôle de voir ces fantasmes d'enfants parfaits aussi.
Ouais.
Moi je vais réussir là où tout le monde a échoué, et je vais avoir un enfant qui est à la fois très sociable, très éduqué, très artiste. Et c'est très drôle de voir en général ces gens-là quelques années plus tard, quand l'adolescence arrive.
Et tout est renversé.
Oui. Mais voilà, surtout je pense depuis que, enfin vraiment, et ça d'autres que moi l'ont dit, des sociologues, mais ce qui change vraiment la donne, c'est quand l'enfant est un choix. Et dans les sociétés où la contraception existe, comme chez nous depuis quand même plusieurs décennies, le fait de choisir d'avoir un enfant fait qu'il va être chargé de beaucoup plus d'attentes, de projections. Mais si on reprend possession, je crois quand même qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis, c'est-à-dire pour certaines femmes en tout cas, il y a dans les enfants quelque chose de réparateur par rapport à ce qu'elles n'ont pas obtenu par ailleurs, soit dans la relation amoureuse, soit dans la relation avec les parents. Et peut-être que chez certains hommes aussi.
Et alors, Tant qu'ils vivent, donc, que j'ai adoré, donc ton dernier livre, c'est dur de le pitcher.
Très, je suis d'accord.
On pense à des thèmes. Il y a le thème du départ. Il y a le thème, il y a quelque chose vraiment... de l'ordre du déracinement. Récemment, j'ai vu Past Life, je ne sais pas si tu l'as vu.
Non.
C'est un film sur une histoire d'amour d'une immigrée coréenne qui a un amour de jeunesse en Corée.
Oui.
Puis avec ses parents, elle va aux États-Unis et puis là-bas, elle fait sa vie. Puis en fait, elle revoit des années après son petit amoureux qu'elle avait en Corée avant de partir. Et donc, c'est une histoire d'amour, mais en fait, ça parle de départ et de retour. Et c'est vrai que dans toute ta littérature, il y a ce mouvement, cette dualité, quoi, et d'ailleurs qui se joue entre les deux langues que tu manies, peut-être que tu en manies plus que le français et l'hébreu,
oui.
Mais il y a cette, vraiment, dans Qui vive, on voit ce, un peu une quête identitaire, un personnage féminin donc qui, elle, ne fuit pas sa mère, mais sa fille, et son mari, et son compagnon, et qui a besoin de repartir. Et c'est étonnant, on voit que c'est un personnage vraiment inventé, parce que pour te connaître, elle va en Israël, mais avec des yeux d'une... On a l'impression vraiment de s'en connaître, sans attachement particulier, alors que quand voilà, on sait ton histoire, on sait que tu connais bien Israël, et elle va chercher une réponse à un moment qui, moi, m'a rappelé toute cette période après les confinements, qui était quand il y a eu un zeste d'espoir du monde d'après.
Exactement.
Qu'on a vite essayé d'oublier parce qu'il fallait retourner à un monde libéral qui produit rapidement. Mais ce livre, c'est vraiment comme une espèce de souvenir pour moi. Ça m'a replongée dans cet état de « attendez, on a vécu quelque chose de fou ». Alors, bon, le tourbillon de la guerre... des lois du marché font que c'est comme si c'était oublié. Ton livre vient poser une petite pierre souvenir sur l'état dans lequel cette pause nous a laissé d'imaginer autre chose.
Oui, exactement, exactement. D'ailleurs, Mathilde, je pense que elle ne fuit pas particulièrement sa fille ou son mari, même si de fait elle s'en va. Alors, c'est vrai que le mouvement est souvent présent dans mes livres. Et il est dû, je crois, au fait que moi-même, j'ai été déracinée en quelque sorte deux fois quand j'ai quitté la France pour aller vivre en Israël avec mes parents à l'âge de 13 ans. Donc voilà, j'ai quitté Nice pour le désert du Negev. Et ça a été un premier mouvement très important dans ma vie. Et puis quand je suis revenue toute seule en France à l'âge de 21 ans, donc j'ai quitté Israël pour revenir 8 ans plus tard. Et depuis, le déplacement, le mouvement est toujours chez moi, que ce soit dans ma vie ou dans l'écriture, une source de... me donne l'impression de pouvoir trouver un regard qui est plus... Où je vois avec plus de netteté le réel. Voilà. Je le vois plus nettement parce que je me déplace. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, Mathilde, mais j'aime beaucoup quand tu dis que ça t'a rappelé cette période, et que c'est comme voilà, une petite pierre souvenir, parce que ce livre, même s'il ne parle pas du confinement, il évoque en quelques pages ce moment du premier confinement et la pandémie et ce qui a suivi. C'est important peut-être de dire que Mathilde est professeure d'histoire géo. Et qu'elle, elle a eu pour habitude, elle aime vraiment ses élèves, elle aime son métier, et elle a fait de l'histoire la grille de lecture du monde. Voilà, l'histoire, pour elle, jusqu'au moment où la pandémie arrive, permet de tout expliquer, de tout comprendre. Et au moment où la pandémie arrive, où le monde devient du jour au lendemain silencieux, où les aides sont invisibles, les rues sont vidées, tout le quotidien, tous les actes les plus anodins deviennent impossibles. Et où il y a cette chose inouïe qui nous est arrivée à tous, enfin à la moitié de l'humanité qui a été confinée au même moment. À ce moment-là, elle est en état de choc comme beaucoup. Mais à la différence des autres, elle n'arrive pas à se remettre en route de la même manière ensuite. Voilà. Elle ne comprend pas ce que tu décris, toi. Cette logique qui dit... Et qui est aussi une réalité. Le temps continue de s'écouler et donc on ne peut pas tous s'arrêter, réfléchir, commencer à discuter. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a ressenti, comment on va vivre à partir de maintenant. Mais ce désir, tu parlais de désir tout à l'heure, ces différents désirs qui sont nés pour chacun, ces différentes prises de conscience qui sont nées pour chacun au moment du confinement, cette conscience de à quoi je tiens réellement, à quoi je suis attachée, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je peux envisager ma vie vu qu'elle était tout à coup sous un jour nouveau, toutes ces questions-là, elles vont emmener Mathilde vers Israël. Alors pour une raison qui en apparence pas du tout logique, mais parce qu'elle s'est mise en quête de justesse. Il lui semble qu'il y a quelque chose de faux, mais dans le sens, c'est comme en musique, quand on joue faux. Il y a quelque chose de faux dans le fait de reprendre la vie comme si rien ne s'était passé. Et il n'y a pas de monde d'après, il n'y a pas de changement réel. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce qu'elle part en Israël suite à une vidéo de Leonard Cohen qu'elle a découvert pendant le confinement, et où Leonard Cohen quitte la scène un jour à Jérusalem en disant « Je n'arrive pas à chanter, je ne peux pas investir mes chansons, donc je vais quitter la scène. » Et cet acte de franchise d'honnêteté absolue vis-à-vis de soi, de ce qu'on est capable de faire ou pas dans l'instant. Cette affirmation « je ne peux pas tricher » l'a conduit à aller, elle aussi, à Jérusalem. Alors, voilà. J'ai aimé, c'est vrai que je connais ce pays bien mieux que Mathilde, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la guider et à l'accompagner dans un pays que moi, je connais et qu'elle découvrait, parce que ce qui est à l'œuvre dans ce livre pour moi, c'est la quête d'un regard innocent. Et on parlait de l'enfance tout à l'heure. Je crois que Mathilde, dans ce moment-là extrême de l'histoire de l'humanité, où on a l'impression que tout se fige. Enfin, c'est vraiment la Belle au bois dormant. C'est vraiment où ce moment dans Podane, tu sais, quand il y a Podane qui est là dans le village et tout s'arrête.
Et tout dort.
Ou bien dans il y avait ce film qui avait eu un prix à Cannes, dont j'ai oublié le nom, un film nordique. J'ai oublié le titre. Je vais le retrouver. Mais je sais pas si tu te souviens, elle avait eu le prix d'interprétation féminine en 2021. C'était une jeune femme qui vivait plusieurs amours. À un moment donné, elle est amoureuse et on
ah
la
oui,
voit.
Ah en 12 portraits, Julie.
Julie en 12 chapitres.
Julie en 12 chapitres, magnifique.
Voilà. Ouais. Julie en 12 chapitres, très très beau film que magnifique. J'ai adoré.
Ouais.
Et à un moment donné, on la voit, elle est amoureuse, on la voit traverser la ville et tout est suspendu, tout est à l'arrêt. Mais ce qui ressemblait à des images de films et de fiction est devenu une réalité. Et donc, c'est ce moment-là ramène Mathilde à une forme peut-être d'innocence. Elle a envie de tout réapprendre. Elle a envie de tout réapprendre et de tout regarder. Et donc, voilà, moi, j'ai accompagné son regard dans ce pays qu'elle ne connaissait pas ou à peine, où elle est allée une fois dans sa vie à 6 ans. Et après, on va dire que c'est peut-être pas si anodin, évidemment, que ce soit ce pays-là. Mais... Elle, en tout cas, elle a ce prétexte très poétique, que je trouve très beau, d'aller là où Leonard Cohen a quitté la scène.
C'est magnifique et c'est vrai que en lisant ton livre, j'ai réécouté les chansons de Leonard Cohen qui sont bouleversantes et je ne connaissais pas du tout ce moment qui est un peu l'acte ultime du poète, quoi. Cette chose-là de... Quand les gens me demandaient pourquoi j'aime Blanche Gardin, j'avais l'impression que je disais mais elle fait l'expérience un peu ultime du poète pour tout le monde en étant un peu dans la mort et dans la vie, parce que ce qu'elle raconte quand même sur scène, sur ses pulsions et sur l'endroit où elle se tient et quand on sait un peu son histoire, c'est quelque chose de profondément désespéré. Oui, mais elle se met dans ce bord-là. Moi, je sais que les gens me demandaient est-ce que t'es inspirée. Je dis ah oui, mais moi je me tiens beaucoup plus dans la vie qu'elle. Mais je lui suis reconnaissante d'être à cette frontière, de faire
se tenir à la frontière.
J'ai l'impression et c'est vrai que là, Leonard Cohen, d'un coup, c'est comme s'il faisait un trou dans le enfin dans la Matrix, quoi.
Exactement.
C'est fou.
Je l'ai ressenti comme ça. Enfin, ouais. Je l'aurais pas. J'adore la façon dont tu le dis, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai senti que ce passage était essentiel. Pas pour créer un effet dramaturgique et raconter la vie de Leonard Cohen, mais parce que ce qu'il dit à ce moment-là, ce qu'il dit à mon personnage et ce qu'il me disait à moi en tant qu'écrivain, c'était précisément ça, se tenir à la frontière entre la vie et la mort. Voilà, les ténèbres et la lumière. Et Mathilde est beaucoup, voilà, elle est insomniaque, elle vit beaucoup la nuit. Elle est beaucoup dans l'obscurité, mais elle cherche une forme de clarté dans l'obscurité. Et il m'a donné la tonalité, cette tonalité que tu décris. Et c'est toute son œuvre qui se tient là, entre la lumière de l'amour et la conscience des ténèbres ou de l'abîme qui est là, tout proche. Et moi, je l'ai beaucoup écouté aussi, évidemment, en écrivant. Et pour moi, il a cette force des poètes qui ne se contente pas d'écrire ou de chanter, mais qui agit en conformité avec ce qui est le cœur de ce qu'il fait. Et être capable de dire là, je ne peux pas chanter. Pas parce que j'ai pas de voix, parce que je suis aphone, parce que j'ai chopé la grippe ou autre. Mais je ne peux pas chanter parce que je ne peux pas mettre ma sensibilité de l'instant dans mes chansons. Et je ne veux pas tricher. C'est l'acte poétique ultime.
Est-ce que tu penses que le fait que ça ait lieu en Israël, c'est lié ?
Alors certainement, parce que lui, en tout cas, quand il prend la parole dans cette vidéo qu'on trouve sur Internet, qui dure 4 minutes et 2 secondes, il commence par quelque chose de très très beau, parce qu'il cite une mystique juive, la Kabbale, en disant que sa partie masculine et sa partie féminine ne sont pas reliées ce soir-là. On est en 1972. Et c'est Leonard Cohen qui dit « Ce soir, ma partie masculine et ma partie féminine ne sont pas reliées. » Et il dit que donc dans ces cas-là, Dieu n'est pas assis sur son trône, selon cette mystique juive. Bon. Qu'on croit ou pas en Dieu, je trouve ça très très beau de dire que quand le masculin et le féminin ne sont pas reliés, Dieu n'est pas assis sur son trône. C'est magnifique. Et là, il ajoute, et c'est terrible qu'une telle chose arrive à Jérusalem. Parce que Leonard Cohen, donc juif canadien d'une famille européenne dans laquelle il y avait des chantres de synagogue, des gens qui priaient, qui avaient un rapport au sacré, il a un rapport au sacré. Forcément, c'était la première fois qu'il mettait les pieds à Jérusalem. C'était pas anodin pour lui de se retrouver dans cette ville qui est pour beaucoup un mythe, beaucoup plus qu'une réalité. Donc non, c'est pas anodin. En t'écoutant, enfin, poser cette question, je me dis oui, c'est comme si le sacré de la poésie ne pouvait pas tenir face au sacré du lieu, de la ville. C'est comme si le sacré de sa poésie à lui était ébranlé par l'aspect sacré et mythologique de Jérusalem.
Et puis, peut-être parce qu'il ressent les choses tellement profondément que le fait qu'il y a en effet quelque chose qui n'est pas réconcilié dans cette ville.
Certainement. Ah oui, oui, oui. Oui. Mmh. Et puis, il est revenu, il est remonté sur scène, cela étant, à un moment donné. Mmh. Ce que je trouve très intéressant, c'est que, et on le voit aller dans les coulisses, et donc tout le monde le supplie de remonter, et lui, il refuse, jusqu'au moment où il dit « Je sais ce que je dois faire, j'ai besoin de me raser. »
Waouh, ah ouais, voilà. Ça aussi c'est très...
Et on le voit se raser dans les coulisses, alors qu'il y a des milliers de spectateurs qui attendent son retour, qui applaudissent, qui chantent, qui crient.
Il enlève des poils.
Voilà, il se rase.
Il trouve le féminin.
Il trouve le féminin, exactement. C'est exactement. Fou. Il retrouve son corps aussi, quelque chose du corps, parce que Jérusalem, voilà, c'est mythologique, c'est mystique, mais tu sais, il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome de Jérusalem, qui est vraiment une pathologie qui n'existe qu'à Jérusalem. Les hôpitaux connaissent ça. Ils voient arriver des gens qui, une fois quand ils mettent les pieds dans cette ville, ils deviennent fous. Non, ils deviennent fous. Ils se prennent pour des prophètes, pour le Messie. Ils commencent à avoir des discours un peu délirants. C'est vraiment le syndrome de Jérusalem. Et donc c'est une ville qui convoque beaucoup l'esprit, le fantasme, etc. Et là, il retrouve son corps et comme tu le dis, il retrouve peut-être le féminin aussi et il remonte sur scène chanter.
Moi, j'ai une histoire un peu bizarre avec Jérusalem parce que quand j'étais petite, qu'on y allait avec mes parents, ma mère, elle s'était fait un peu malmenée dans un supermarché par un religieux parce qu'elle avait les bras nus.
Ah, ça m'est arrivé aussi dans un marché. Oui. Ouais. Ah oui, oui, ouais. C'était en quelle année, tu te souviens?
Oh, j'étais petite, mais j'avais eu un peu peur pour elle. Et résultat, quand je suis retournée en Israël adulte, j'ai pas voulu aller à Jérusalem. Je suis juste allée à Tel Aviv, que je connais. Et j'ai adoré Tel Aviv. C'était en 2018 ou je sais plus où. C'était peut-être juste avant d'ailleurs qu'il y ait 2019. Et aussi un peu pour fuir un chagrin d'amour, hein, en pensant aussi quand même trouver une réponse ou une solution. Et,
ah oui.
Ouais. Et puis et j'ai rencontré de la famille que je connaissais pas là-bas. C'est un peu tragique parce que j'ai vécu dans un appartement magnifique de la famille de mon père. Et j'ai rencontré de la famille que je connaissais pas. Il y en avait un qui avait été un enfant caché. Ils étaient vieux maintenant, mais ils avaient un groupe de parole. Et puis, quand il y a eu les confinements, il s'est suicidé.
Oh là là.
À la fin du... Parce qu'en fait, ils n'avaient pas soupçonné à quel point, pour les Juifs qui avaient été enfants cachés pendant la guerre, les confinements allaient raviver ça, l'enfermement. Et en fait, tu vois, ils avaient beau faire leur vie en Israël, faire des groupes de parole et tout fait pour... en fait, ça, ce moment-là, ça a fait péter un truc. Ils étaient vieux, hein. Sa femme, qui était, tu vois, de la famille éloignée, mais qui était super, très cultivée, dans le quartier français, Tel Aviv, c'est hyper. Elle est un peu, je pense, par mécanisme de survie, elle est un peu devenue sénile après cet événement, pour pas voir, quoi. Oui.
Mais c'est curieux ce que tu dis, parce que tu sais, dans ce livre-là, dans Qui vive, on croise à la fin un personnage qui s'appelle Constance Kahn, et qui est l'héroïne de mon tout premier roman, En retard pour la guerre.
Ouais.
Et donc, il s'est échappé de mon premier roman pour venir dans celui-là. Et pourquoi ça me frappe? Parce qu'En retard pour la guerre, c'est un roman qui se passe en 1990 et 91, au moment de la première guerre du Golfe. Et où l'Irak avait envahi le Koweït, il y a eu une grande coalition avec les États-Unis et une quarantaine de pays pour faire la guerre aux Irakiens. Pour se venger, Saddam Hussein a bombardé Israël et envoyé des missiles. Et il menaçait d'envoyer du gaz. Donc, les Israéliens entraient dans des abris, des chambres hermétiques, chaque fois qu'il y avait une alerte. Et à ce moment-là, il y a même des journalistes qui ont fait des lapsus terribles en disant « Les Israéliens sont entrés dans les chambres à gaz, au lieu de dire les chambres hermétiques, pour se prémunir du gaz. » Donc, c'est un lapsus terrible. Et on s'aperçoit dans ces moments-là, que l'histoire, on pense toujours que l'histoire, c'est du passé, et que on en parle ou on n'en parle pas, mais c'est du passé, qu'il faut parler que du présent. Mais ce que tu décris là, moi, je l'ai ressenti au moment de la guerre du Golfe, et puis là, au moment des confinements. Les situations extrêmes ramènent toujours d'autres situations au premier plan, comme si en fait le temps n'avait rien changé à la perception, et que quelque chose qui s'est produit il y a 70 ans peut tout à coup ressurgir dans le présent avec la même force.
Exactement.
Et ça, c'est fascinant sur le plan historique et sur le plan intime aussi, de voir à quel point des moments différents du temps peuvent tout à coup se rejoindre. Comme s'ils étaient simultanés, comme si... ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle un traumatisme qui revient et qui ressurgit.
Mais est-ce que toi, dans l'acte de Leonard Cohen, il y a quelque chose de fantasmagorique de toi, Valérie, où tu te dis parfois, j'aimerais tout arrêter, ne plus écrire, faire que du violon.
Moi, j'ai toujours le sentiment de vivre quand même un peu mille vies. Donc, cette suspension de la vie, je peux l'éprouver. Et j'ai pu l'éprouver à différents moments, très précis. Par exemple, je suis aussi traductrice, et je suis la traductrice d'Aaron Appelfeld en France, qui est un très très grand écrivain israélien, né à Tchernovitz. Tchernovitz, à l'époque, c'était, quand il est né en 32, c'était la Roumanie. Et puis aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Voilà, ce sont ces régions d'Europe qui changent constamment de langue et de pays. Et après la mort d'Aaron Appelfeld, en 2018, je suis allée en Ukraine. Je suis allée pour son anniversaire dans la ville où il est né. J'ai eu envie d'être là-bas, simplement là-bas. Pourquoi je raconte ça? Parce que ce voyage a dû... Donc, je suis partie à Kiev, de Kiev à Tchernovitz. Je suis restée 48 heures à Tchernovitz, pas plus. Mais ces 48 heures où j'étais totalement seule, dans le froid, la neige, il faisait moins 10, sans connaître personne. Je pouvais absolument pas croiser quelqu'un que je connaissais là-bas. Je pouvais croiser que des personnages d'Aaron Appelfeld, en quelque sorte. J'avais l'impression d'être plongée dans ses livres et dans ses personnages. Mais cet anonymat absolu, qui a duré à peine 2 jours, que j'ai pu vivre aussi en allant en Algérie en 2012, quand je suis allée, j'étais invitée en Algérie, je me suis retrouvée là où mes parents sont nés, mais où je n'avais jamais mis les pieds. Ces déplacements que j'ai pu faire, et qui ont duré chaque fois quelques jours, m'ont toujours donné l'impression de vivre ce que tu dis là, c'est-à-dire ce décrochage du rythme quotidien, d'une vie structurée, avec ses balises
parisiennes,
avec ses balises, il ne faut peut-être pas utiliser le mot de balise forcément pour les êtres, mais avec les amis, la famille, les obligations, un certain statut social, si on veut, ou autre. ou des obligations. Et donc cette suspension-là, je l'ai vécue à quelques reprises, et c'est quelque chose qui est très très fort et qui n'a rien à voir avec le temps qui s'écoule. J'ai pas besoin de partir un an pour sentir que je suis partie. Deux jours parfois peuvent me faire cet effet-là.
Je me souviens, mais dans le faisceau des vivants, t'en parles aussi
oui,
de
tout à fait,
ce
de ce voyage.
Voyage
oui, c'est toute la deuxième partie du livre où je suis allée, où je suis allée là-bas en Ukraine et le fait d'être dans, c'est-à-dire ce que j'aime profondément dans le voyage, c'est absolument pas le tourisme. J'ai pas du tout une âme de touriste. J'aime aller dans des lieux qui, d'une certaine manière, se rattachent à moi. Mais soit par le biais de la fiction, par le biais de livres que j'ai lus, ou par des histoires que j'ai entendues, qu'elles soient familiales ou autres. Là, pour moi, les lieux, tout à coup, prennent une... comment dire... je sais pas, il y a une intensité, là, pour moi, de poser vraiment mes pieds sur une autre terre, de sentir une autre lumière, une autre langue, de manger différemment, enfin tout. Voilà, là, je suis un peu comme Mathilde quand elle part en Israël. Je deviens réceptive à chaque chose, à chaque seconde qui s'écoule. J'ai l'impression que tout est nouveau. Et c'est enivrant d'avoir cette conscience qu'on ne peut pas avoir à chaque seconde de la vie, parce que si on l'avait, peut-être qu'on ne pourrait pas, au fond, vivre dans la contrainte de l'organisation du temps, l'organisation financière, matérielle. Si on avait conscience en permanence que la vie est là à chaque seconde, que la nouveauté, la découverte est là à chaque seconde, peut-être qu'on ne pourrait pas faire sa lessive aussi. Enfin, voilà.
Ouais, puis c'est des curiosités. Peut-être
payer
que
ses impôts. Mais,
ouais. Peut-être que tu es Ashkenaz d'adoption par Aaron Appelfeld aussi.
Ou peut-être inversement, parce que je suis Ashkenaz d'adoption, on va dire, et qu'il y a quelque chose en moi qui est attiré par l'Europe de l'Est depuis toute petite.
Incroyable.
Oui, je crois que... Alors, je n'arrive pas forcément toujours à trouver la source, mais quand j'étais enfant, il y a un livre qu'on lisait beaucoup dans les années 70. Voilà, moi, je n'ai pas de problème à dire mon âge. Je suis née en 1970. Et dans ces années-là, c'était les années où on s'est remis ou mis à parler de la Seconde Guerre mondiale. Après des années où c'était un sujet qui était refoulé, et il y a un livre qu'on lisait beaucoup, que toute ma génération a lu, mais peut-être la tienne aussi, qui était Un sac de billes, de Joseph Joffo. Et donc l'histoire de deux enfants juifs pendant la guerre qui passent en zone libre. Non, ça c'est L'ami retrouvé.
Ah oui, L'ami retrouvé, moi c'est celui-là que j'ai lu, ouais.
L'ami retrouvé, c'est aussi un grand classique. Un sac de billes, ça a été un best-seller des années 70. L'histoire de deux petits garçons juifs, Paris 18e, qui fuient Paris pour trouver refuge en zone libre, en France, puisque la France était coupée en deux à ce moment-là. Et donc, c'est leur périple. Et ce livre, vraiment, a fait un tabac, si on peut dire, auprès des enfants. Et Joseph Joffo a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelait « Anna et son orchestre ». Et c'était l'histoire de sa mère qui avait fui la Bessarabie ou la Biélorussie. Donc voilà, on est en Europe de l'Est. Et qui jouait du violon. Et qui avait fui suite au pogrom, donc au massacre des Juifs du début du siècle là-bas, qui avait fui avec ses parents pour arriver en France. Et je crois que ce livre m'a beaucoup, beaucoup marquée, de cette petite fille qui jouait du violon. C'est peut-être, ça correspond au moment où moi-même j'ai commencé à jouer du violon. J'ai dû m'identifier à ça. Et oui, et depuis, ça n'a pas cessé. Il y a en moi quelque chose qui se rattache aussi aux Juifs de l'Est, à ce judaïsme-là, qui n'est pas celui de mes parents. Mais après tout, si on parle de... d'identité. Moi, je n'aime pas du tout la question de l'identité comme étant...
communautariste
Oui, et comme étant, d'une part, une injonction réductrice, et j'aime surtout pas me définir à travers une seule chose, à travers une seule facette. Je ne pourrais pas dire si je suis plus femme que française, que juive, par exemple. Je ne pourrais pas dire. Et puis, ça se décline encore. Donc, moi, mon être contient beaucoup plus que ma biographie, je crois, en termes de ressenti. Et je sens quelque chose en moi qui vient d'Europe de l'Est. Et quand je suis partie en Ukraine, je me sentais chez moi. C'était la première fois que j'y mettais les pieds. Je suis rentrée en disant à mes copains, mais moi je veux passer ma retraite là-bas.
Incroyable.
Oui, ils étaient tous morts de rire, ils croyaient que c'était une blague. Mais non, je me sentais là-bas. J'ai aimé quand je suis allée à Kiev, au retour, avant de rentrer à Paris. J'étais accueillie par quelqu'un qui vivait là-bas. On s'est retrouvés un dimanche dans une cuisine à manger comme ça, un fromage ukrainien que j'adore, le brinza, avec des sortes d'intellectuels qui fumaient, qui ressemblaient à des gens qu'on trouve dans les romans de Milan Kundera.
Ouais.
Tu vois,
ouais.
À 11h du matin, tu manges des cornichons, tu refais le monde, tu parles philosophie, histoire, littérature, et tu as l'impression. Et avec des gens qui ne sont pas là pour étaler ce qu'ils savent, mais pour vraiment affronter les questions.
En profondeur.
En profondeur. Les questions de la vie, les questions politiques. Avec une manière d'y croire qui moi me voilà je sais pas et ça puis à rêver. Chanter voilà on parle politique, on chante, on boit, on mange, ça pour moi c'est l'Est.
Ouais, très slave.
Oui.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ça me fait rêver ce que tu me dis, parce que peut-être que parfois, ce que, je ne sais pas si c'est la France, Instagram, l'influence des États-Unis, le monde dans lequel on vit, mais il y a beaucoup la question de la mode.
Oui.
C'est quoi être in ? C'est quoi avoir le vent en poupe ? C'est quoi être inondé de likes ? C'est quoi avoir ce truc voilà, du nouveau visage, de la révélation, du jeunisme, de quelque chose qui parfois un peu empêche la pensée en profondeur, empêche le débat. C'est quoi ? C'est aussi peut-être parfois ce qui nous fait souffrir ces dernières semaines, de à quoi la meilleure couve, le meilleur titre, la meilleure story qui résume ou buzz et excite, en fait.
Oui.
Et c'est parfois... Oui, on rêve un petit peu de gens qui, oui, apportent de la complexité. Et comme toi, tu as pu aussi en apporter beaucoup dans le débat dès le début, depuis le 7 octobre, en étant une voix française, mais qui a vécu en Israël et qui parle de... Ben, je sais, peut-être de manière plus légitime, qui peut à la fois être très empathique et en même temps très critique.
C'est vrai que j'ai été sollicitée après le 7 octobre... les massacres en Israël et la guerre qui s'en est suivie aussitôt entre Israël et le Hamas et la guerre en cours encore voilà, à Gaza et parfois aussi avec le Liban, enfin avec le Hezbollah au Liban. Donc voilà, une actualité très brûlante. J'ai été sollicitée pour prendre la parole et j'ai accepté de le faire, alors que parfois, moi quand je sens que j'ai pas grand-chose à dire, je préfère me taire, réfléchir. Là, j'ai accepté de le faire parce que je sentais que ces événements-là, qui sont d'abord et avant tout extrêmement cruels et qui vont certainement changer le cours de l'histoire dans toute la région. Je pense que personne aujourd'hui ne peut dire voilà ce qui va se passer, voilà vers quoi le Proche-Orient va. Personne ne peut dire ça, et les gens qui affirment comme ça de savoir, bon, pourquoi pas, mais en tout cas, moi je ne les rejoins pas. En revanche, il m'a semblé justement que le drame était d'une telle ampleur et que les répercussions de ce drame, tu parles d'Instagram, des réseaux, etc., mais que les répercussions médiatiques ou l'agitation était si grande qu'il fallait aussi apporter de la réflexion et qu'il fallait apporter une forme de pensée. Parce que moi, la guerre, d'une certaine manière, à mon petit niveau, je sais ce que c'est. Pour avoir beaucoup lu dessus quand j'étais enfant, pour être issue, on va dire, aussi par mes parents, de la guerre d'Algérie, mais aussi parce que j'ai été journaliste et je suis partie à Sarajevo pendant la guerre, donc quand il y avait la guerre dans les Balkans, comme on disait, dans les années 90, il y a pile 30 ans. Et donc je suis allée à Sarajevo pendant le siège. J'ai vécu plusieurs guerres en Israël. Donc la guerre, je sais ce que c'est de près. Et je sais que quand on est en guerre, c'est pas forcément le moment où on peut réfléchir. C'est le moment où on est blessé, où on est en mode survie, où chaque instant est menacé. En revanche, les gens qui sont à l'extérieur, et nous ici en France, on est à l'extérieur, on n'est pas menacé ni par Israël, ni par le Hamas. Eh bien, je crois qu'il y a une forme de responsabilité à ne pas être dans une surenchère de l'émotion et des pulsions et de... Même si on peut exprimer une émotion, évidemment, moi je ne suis pas contre l'expression de l'émotion, mais qu'on ait une responsabilité politique à essayer de convoquer la pensée. Et convoquer la pensée, ça veut dire essayer au maximum de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui est en jeu, pas à travers nos fantasmes, pas à travers notre grille de lecture. Le Proche-Orient, ce n'est pas l'Europe.
Bien sûr.
Ces pays-là, tout à l'heure, tu parlais de Jérusalem. Tu disais, voilà, moi, là, j'ai un mauvais souvenir parce que ma mère avait été agressée par quelqu'un au supermarché. Moi, je rappelle très souvent que quand on parle d'Israël et des Palestiniens, on parle de régions où le religieux a une place beaucoup plus importante qu'ici, qu'en France et que dans toute l'Europe. Et c'est une donnée fondamentale. Le religieux, ce n'est pas anecdotique. Le religieux, là où il s'exprime de manière publique, à Gaza, le religieux est partout. Le Hamas est un mouvement fondamentaliste religieux rattaché aux frères musulmans. C'est un islam très radical. On ne peut pas ne pas être voilé quand on est une femme à Gaza, par exemple. Ce n'est pas anecdotique. La place du religieux en Israël, qui n'est pas la même qu'à Gaza, mais qui est beaucoup plus importante qu'ailleurs en Europe, par exemple, cette place-là, elle est très importante aussi à comprendre, parce que pour certaines personnes, le religieux détermine tout, qui est ton ami, qui est ton ennemi, qui tu peux tuer, qui tu dois préserver. Le religieux dépasse les règles internationales, les lois de la guerre. C'est pas qu'il les dépasse, il annule toutes les autres lois. Face à la loi religieuse, toutes les lois qui sont les nôtres, ici par exemple, n'existent pas. Tous les principes qui sont les nôtres, de la liberté individuelle, à commencer par la liberté individuelle. Quand le religieux est aussi important, il n'y a pas de liberté individuelle.
Non, bien sûr.
Et c'est le collectif qui l'emporte. Et il n'y a pas non plus de nuance, il n'y a pas de demi-mesure. C'est le dogme. Il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas de compromis possible face au religieux. Le religieux, c'est l'absolu. Tout à l'heure, je parlais d'une mère qui a un enfant dans son ventre et il y a une sorte d'absolu. Le croyant vit un absolu avec Dieu. Et ça, je crois que tant qu'on ne le comprend pas, on ne comprend pas ce qui se passe et ce qui est en cours. Et quand on le voit uniquement avec un prisme occidental on se trompe parce que tout simplement, on parle d'une réalité qui n'est pas structurée de la manière dont nous, on la considère. C'est pour ça que j'ai dit un jour qu'il fallait décoloniser notre perception du conflit israélo-palestinien. Il faut décoloniser cette perception-là. Parce qu'on met des termes sur ce conflit qui ne sont pas ceux des protagonistes eux-mêmes.
Et je pense que moi, j'ai voulu me voiler la face parce que quand j'y suis allée, c'est pas pour rien que j'ai pas voulu aller à Jérusalem, c'est parce que j'ai voulu voir cette autre partie d'Israël, la partie de Tel Aviv. Et ce qu'il y a d'incroyablement contradictoire dans ce pays, c'est que t'as donc ce religieux qui est prépondérant et en même temps, t'as une modernité folle parce que t'as ces séries, t'as ces films d'animation, parce que t'as ce monde queer, parce que t'as ces hommes qui se tiennent dans la main dans la rue à Tel Aviv, t'as toutes ces bars, ces boîtes de nuit. Moi, j'ai eu jamais jamais eu autant l'impression à Tel Aviv d'être dans une ville féministe.
Bien sûr.
Parce que du fait que les femmes fassent l'armée, tu sens qu'elles n'ont pas peur. Et ça, c'était incroyable de sentir dans l'espace public des femmes qui n'ont pas peur et qui sont en mini-short dans la rue à 2h du mat et il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que, oui, je voulais être juste sous le charme de ça, de voir aussi des Israéliens de gauche qui détestent les religieux parce que pour eux, c'est eux qui prennent tous les impôts et qu'ils en ont marre et qu'ils ont un vrai idéal socialiste, mais que j'ai vu, alors je fuyais les juifs français là-bas, que je trouvais tous parfois un peu tarés, névrosés. Tu sens qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas résolu leurs problèmes en France et qui viennent un peu errer là-bas, mais, et que c'était pas une population que je recherchais, mais par contre, les Israéliens de gauche à Tel Aviv me paraissait étonnamment beaucoup moins religieux que moi.
Bien sûr.
Tu vois ?
Oui, bien sûr. Mais moi, quand je suis arrivée en Israël, j'étais frappée par le fait que des gens me disaient « Moi, je ne suis pas juif, je suis israélien ». C'est-à-dire, il faut rappeler qu'Israël est un État très jeune qui a été créé par décision des Nations Unies en 1948. Et donc, où vivent des gens qui viennent, des juifs, pour la plupart, pas uniquement. Il y a aussi 2 millions de Palestiniens israéliens, qui sont des Palestiniens qui étaient là au moment de la création de l'État, qui sont restés et qui ont aujourd'hui la nationalité israélienne. Et donc, moi, je rencontrais des gens, dès mon arrivée, qui me disaient « Nous, on est israéliens, on n'est pas juifs, on n'a plus rien à voir avec ça ». Bon, ils s'aperçoivent que c'est plus complexe, parce que si cet État existe, c'était pour être un État où les Juifs pourraient trouver refuge, notamment avec cet idéal socialiste à l'époque. Moi, je pense que ce que tu décris là, sur Tel Aviv et sur la vivacité de Tel Aviv, ça se rattache aussi à quelque chose que je rappelle toujours lorsque je parle de la région. C'est aussi la jeunesse extrême de ces populations. Là aussi, c'est une donnée qu'il faut rappeler pour comprendre ce qui se passe. Je dis, et que peu de gens pensent réellement, que peu de gens savent, et que peu de gens pensent. Quand on parle de la population à Gaza, par exemple, on parle d'une population où l'âge médian est de 18 ans. C'est-à-dire, tu as autant de personnes qui ont moins de 18 ans dans la population que de gens qui ont plus de 18 ans. Ça, c'est l'âge médian. En Israël, il est de 28 ans.
C'est très jeune aussi.
C'est très jeune aussi. Et pour te donner une idée, en France, il est de 44 ans. Et on s'achemine vers 46 ans.
Incroyable.
D'accord. Donc, quand on prend cette donnée en compte, on comprend que forcément, on parle de peuples qui sont constitués autrement que nos peuples vieillissants. Ça change beaucoup de choses sur le rapport à la modernité, le rapport, comme tu dis, peut-être au féminisme, à une culture queer qui existe aussi en Occident, mais qui là-bas existe beaucoup plus, puisque les gens sont plus jeunes, tout simplement. Donc, ils s'emparent de ces questions avec plus rapidement et de manière plus vaste. Et je crois que ce qu'on nommait aussi quand on n'arrive pas à penser cette jeunesse, c'est que justement, la jeunesse, c'est aussi l'âge où tu n'as pas encore le recul de l'histoire, le recul de l'expérience, où parfois tu as été embrigadé aussi, où tu n'as pas encore ton autonomie de pensée forcément, et où tu peux plus facilement verser dans des positions très radicales. Et cette radicalité-là, on la voit au côté palestinien aussi, mais côté israélien, on la voit aux deux extrêmes de la société. Du côté des juifs ultra-orthodoxes ou nationalistes ou suprémacistes, il y a énormément de jeunes. Et du côté des progressistes, comme on dit, féministes, LGBTQ, etc.
Colleuses.
Voilà, oui.
Des nanas qui faisaient la sécu dans les boîtes, j'avais adoré.
Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, la première fois, j'ai vu une femme DJ. DJ, c'était en Israël, d'ailleurs. Ça fait très longtemps.
Et qu'est-ce que tu réponds quand les gens te disent qu'Israël pratique l'apartheid ?
Alors ça, c'est une vaste question, parce qu'elle demande de faire un petit peu de géopolitique. Alors pour être très bref, parce que je veux pas prendre forcément trop de temps, mais quand on parle des Palestiniens, on parle de Palestiniens comme si c'était une seule entité. Or, les Palestiniens aujourd'hui ont des statuts très différents selon l'endroit où ils vivent. Il y a les Palestiniens de Gaza qui sont sous l'autorité du Hamas. Bon, alors aujourd'hui, il y a la guerre et Israël se trouve à Gaza, ce qui n'était pas le cas avant le 7 octobre. Israël s'était retiré de Gaza en 2007 et n'était plus présent. Contrôler les frontières, contrôler l'espace maritime et l'espace aérien, mais pas Gaza intramuros, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, il y a les Palestiniens de Gaza qui sont pour la plupart déracinés, qui ont perdu leur maison, qui ont pour plusieurs dizaines de milliers perdu la vie, qui sont dans un grand danger de survie. Eux, voilà, leur sort, c'est pas celui de l'apartheid, c'est celui de la guerre. Il y a les Palestiniens de Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est pas du tout relié à Gaza, c'est entre Israël et la Jordanie. Et eux ont un statut particulier, ils ne dépendent pas du Hamas, ils ne dépendent de l'autorité palestinienne. Et en Cisjordanie, là on peut parler de colonisation, réellement. Parce que ce sont des territoires qui ont été conquis en 67 par Israël, mais qui n'ont pas été annexés, c'est-à-dire qui n'ont pas été intégrés à Israël, mais qu'Israël occupe. Donc là, il y a une occupation, ou une colonisation, une occupation. Et donc, ce n'est pas de l'apartheid, c'est de l'occupation, c'est de la colonisation, avec tous les méfaits de l'occupation, les inégalités, les violences qui sont perpétrées, soit par l'armée, soit par ce qu'on appelle les colons. Et puis avec aussi un terrorisme qui existe là-bas à la marge de la population, mais qui est présent tout de même. Et puis il y a les Palestiniens d'Israël, dont je parlais tout à l'heure, qui sont quasiment 2 millions, et eux ont l'égalité civique, ils ont le droit de voter, ils sont représentés au Parlement, ils ont des députés, ils ont des députés parfois anti-sionistes, qui siègent à la Knesset. Ils sont dans les universités. Il n'y a pas d'apartheid vis-à-vis des Palestiniens israéliens. Ils sont dans les universités. Il y a même eu, à un moment donné, une sorte de discrimination positive que la droite et l'extrême droite ont remise en question. Mais il y a eu de la discrimination positive envers les Palestiniens pour les entrées à l'université. Et aujourd'hui, je crois que dans le secteur de la santé notamment, quasiment la moitié des médecins, infirmiers, infirmières en Israël sont des Palestiniens.
Incroyable.
Les métiers de la santé ont été très investis, pharmaciens et autres. Je rappelle aussi souvent que dans les gens qui ont été massacrés le 7 octobre, à peu près 1200 civils, il y avait 70 Palestiniens israéliens. Et des gens qui parfois ont dit en arabe à leurs meurtriers palestiniens de Gaza, je suis palestinien, ne me tue pas, en montrant leurs papiers, et ils ont été exécutés. Cette réalité-là des Palestiniens d'Israël est très méconnue. Et c'est terrible parce que là, moi, j'ai une vidéo d'une femme qui s'appelle Lucia Harish, qui est palestinienne d'Israël et qui est mariée à un des héros de la série Fauda. C'est une journaliste chrétienne, palestinienne, israélienne. C'est complexe, hein? Et qui, j'ai une vidéo d'elle sur la place des otages à Tel Aviv, où elle en appelle aux féministes du monde entier pour soutenir et demander la libération des otages, des femmes qui sont, le sait aujourd'hui, violées, mais il n'y a pas que les femmes qui sont violées, les hommes le sont aussi. Et pour dire que ce n'est pas parce qu'on a de l'empathie, évidemment, pour la population palestinienne, quand elle est bombardée et déracinée, qu'on ne peut pas en avoir pour ces femmes qui subissent vraiment des crimes de guerre. Et donc, pour moi, le mot apartheid n'est pas adapté, parce qu'il y a plusieurs cas de figure de la population palestinienne, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer ce qui se passe, quand ça se passe. C'est-à-dire, quand des colons en Cisjordanie vont brûler un champ appartenant à des Palestiniens, ou vont les agresser, ou vont leur dire « partez », etc., il faut le dénoncer. Quand l'armée... Enfin, moi, de toute façon, je dénonce l'occupation, clairement, parce que c'est une aberration. J'ai toujours dit, soit on intègre ces territoires et les Palestiniens deviennent Israéliens, les Palestiniens de Cisjordanie. Ça s'est fait, hein. Je veux dire, l'Alsace-Lorraine était allemande, et puis un jour elle est devenue française, les Alsaciens sont devenus français. L'histoire a vu ce genre de mouvement-là. Mais dans ce cas, on pratique la justice et on donne l'égalité des droits. C'est ce que réclament certains Palestiniens. Mais on sait très bien qu'ils ne pourront pas vivre ensemble de sitôt. Et donc, si on ne donne pas l'égalité des droits, on quitte les lieux. On ne peut pas occuper une population à qui on ne donne pas les mêmes droits. Et là... Oui, sur le papier, ça ressemble à l'apartheid, mais comme c'est une terre occupée de l'apartheid, c'est sur une terre qui n'est pas colonisée, qui est celle de l'État. Je crois qu'on peut inventer des nouveaux mots, une nouvelle façon de dénoncer les choses et avoir un peu moins de paresse aussi. Parce que prendre des mots qui ont déjà servi, c'est aussi une manière d'être paresseux, je trouve. Donc voilà, dénoncer l'occupation, c'est ce qu'il y a de plus juste.
Merci Valérie, c'est un éclairage. Désolée, on est un peu sorti du cadre littéraire, mais c'est très précieux ta parole. C'est vraiment très précieux et trop rare, ça fait du bien.
Écoute, je pense que, enfin, on est sorti et pas sorti en fait du cadre littéraire, parce que ces questions-là, c'est aussi elles qui me font écrire. C'est-à-dire que il faut pas oublier que en fait, ces questions qui semblent être simplement de la géopolitique. Ce sont d'abord des questions de vie. Et ce sont d'abord des questions qui concernent des hommes, des femmes, des enfants, dont les vies peuvent être brisées du jour au lendemain. Le 7 octobre, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des vieilles personnes qui se sont réveillées un matin et qui ont vu leur vie basculer de la manière la plus atroce, qui ont été atteintes dans leur maison, dans leur intimité, dans leur famille, dans leur chair. Moi, j'ai traduit des témoignages du 7 octobre. J'ai traduit des passages où on entend un enfant de 9 ans appeler les secours et, parce qu'on a tiré sur son père et sa mère. Et la secouriste lui dit « Appelle ta maman, appelle ta maman ». Et il y a la petite sœur de 6 ans qui appelle. On l'entend appeler « Maman, maman ». Le petit garçon de 9 ans dit « Elle répond pas ». Quand on traduit ce genre de choses, on est au plus près d'une horreur qui ne peut pas être justifiée. Et dans le même temps, il se trouve que moi, parce que j'ai fait aussi un livre qui s'appelle Une bouteille dans la mer de Gaza, qui est sorti en 2005, qui a été adapté au cinéma, et qui est ce désir-là de
réconciliation.
De réconciliation et surtout de rendre une parole audible, de dire vous vivez à 50 mètres les uns des autres et vous ne vous connaissez pas, et vous fantasmez l'autre comme une sorte de démon absolu. Et bien sûr que ce qui se passe actuellement ne fait que renforcer cette image-là. Et que pour les Israéliens, les Palestiniens sont devenus, pour beaucoup d'Israéliens sont devenus des démons terrifiants, et que pour les Palestiniens, les Israéliens sont aussi des démons terrifiants, évidemment. Et moi, il se trouve que je connais les deux côtés, et que je me place à cet endroit de la frontière où je regarde les deux. Et je connais des gens qui sont à Gaza. J'ai une amie dont les petits-enfants sont à Gaza. Elle m'envoie des photos, des vidéos, je les vois, je connais leurs visages. Et ce ne sont pas des démons, ce sont des jeunes gens. La jeune fille, elle est féministe, elle est journaliste, elle a fait un travail sur les violences faites aux femmes dans la société palestinienne. Et donc c'est cette connaissance-là qui fait que j'aurais pu traiter ces questions-là de manière géopolitique, mais j'ai choisi de le faire de manière littéraire. Donc on s'est peut-être pas éloigné tant que ça de la littérature, dans le sens où ce que je rappelle peut-être en écrivant, c'est que ces questions-là n'ont pas la froideur de sujets historiques qui se sont passés il y a 500 ans et dont on peut parler comme ça, avec détachement. Mais ils sont dans le brûlant de la vie et de la mort. Et que la guerre, c'est d'abord des vies qui sont... Vraiment des vies, des chairs, des corps qui sont... soit martyrisés ou des vies intérieures qui sont soit martyrisées, soit dévastées et qui doivent trouver des forces à l'intérieur de ce chaos. Et c'est pour ça que je vais aussi vers la littérature, parce que j'aurais pu aller vers la politique aussi. Voilà, on peut de différentes manières aborder ces questions.
T'as espoir un jour que Netanyahou et ce gouvernement soient remplacés par un gouvernement plus à gauche, plus pacifique, plus ouvert vers une solution à deux États?
Alors, la solution à deux États, c'est quelque chose qui revient régulièrement et auquel on a cru, on a été nombreux à croire il y a une trentaine d'années, s'il y a eu un processus de paix et un moment dans l'histoire des Israéliens et des Palestiniens où ce qu'on a appelé la solution à deux États semblait possible. Et puis il y a eu, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, au pouvoir, à Gaza et en Israël, il y a les gens qui ont voulu torpiller cette solution. Le Hamas a fait de nombreux attentats à partir du moment où il y a eu le processus de paix en 1993. Ils ont lancé des vagues d'attentats pour torpiller le processus de paix. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avec Netanyahou, ce sont ceux qui ont assassiné Yitzhak Rabin, le premier ministre de l'époque qui voulait aussi cet accord, et qui ont à leur manière aussi torpillé le processus de paix. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des deux côtés des gens qui ne veulent pas
la paix.
De cette solution à deux États, au pouvoir. Quant au peuple, je te disais tout à l'heure qu'ils sont très jeunes, majoritairement. Ils n'ont pas cette mémoire du processus de paix. Ils n'ont pas cette mémoire du moment où la solution à deux États semblait possible. Donc, pour que cette solution advienne, il faut, enfin, il n'y a pas d'autre possibilité que d'avoir des deux côtés des peuples qui la souhaitent. Pour que les dirigeants soient l'émanation de ces peuples. Pour l'instant, je ne te cache pas, je suis plutôt pessimiste. Je suis plutôt inquiète. Ce n'est pas pessimiste d'ailleurs. Sur le pessimisme, c'est une vision du futur qu'on n'a pas forcément. Je le disais tout à l'heure, qui sait ce qui sortira de tout ça. Mais tu vois, l'histoire, voilà, l'histoire nous apprend que tout est toujours mouvant. À la fin de la Première Guerre mondiale, en Europe, il y a eu le congrès de Versailles. On s'est dit, bon, alors voilà, on fait la paix. Or, après, nous, on nous a appris à l'école que le congrès de Versailles a, en quelque sorte, enclenché la Deuxième Guerre mondiale parce que les Allemands ont été humiliés, etc., etc. Comment savoir si ce qu'on fait va avoir un effet positif ou négatif sur les générations futures, réellement ? On ne sait pas. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que le Proche-Orient, ce n'est pas juste Israël, ce n'est pas juste les Palestiniens. C'est le Liban avec le Hezbollah, qui est une milice pro-iranienne et qui est quasiment une armée. Ce n'est pas l'armée libanaise, c'est une armée en soi. C'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Égypte. Il y a une complexité que les gens ne veulent pas voir, mais qui est réelle. Qui est réelle. Donc, pour répondre à ta question, je ne peux qu'espérer qu'un gouvernement plus centriste ou plus de gauche arrive au pouvoir, évidemment. Et je pense que de nombreux Israéliens le souhaitent, malgré tout. Je ne sais pas s'ils seront majoritaires dans les urnes ou pas. Après, il ne faut pas oublier que, pour l'instant, du côté palestinien, il n'y a pas non plus de démocratie du tout. Il n'y a pas eu d'élection depuis 2007 chez les Palestiniens. Depuis 2007. Ça fait 17 ans qu'il n'y a pas eu d'élection libre. Et comme je dis souvent, je n'ai jamais vu, pour l'instant dans l'histoire, une paix réelle se signer entre une entité encore démocratique pour Israël, même si la démocratie est menacée là-bas, entre une entité démocratique et une entité qui ne l'est pas. La paix se signe réellement. Alors, il y a eu la paix signée entre Israël et l'Égypte, par exemple. Mais ils avaient chacun leur territoire bien défini. Là, ce n'est même pas la paix qu'il faut signer, c'est un accord qu'il faut trouver. Pour créer ces deux États. Alors voilà, tout est en cours et voilà, je suis pas.
Toi, t'arrives à écrire là depuis ces derniers mois, comment est-ce que maintenant, avec ce qui est arrivé, tu reviens à la Valérie qui rêve, la Valérie qui imagine des personnages pour le cinéma, la télé, des livres. Est-ce que t'arrives à retrouver cet espace de ton cerveau?
Alors, pour l'instant, non. Et puis là, avec la sortie de Qui Vive, j'ai beaucoup de déplacements, je sillonne la France dans les librairies, les festivals, et je vais à la rencontre de lecteurs qui sont des gens formidables. Donc, ça donne toujours, peut-être que toi, tu vois ça aussi dans tes spectacles.
Ouais, beaucoup d'espoir.
Ça te donne toujours une vision
oui.
Qui est aussi la réalité.
Bien sûr.
C'est-à-dire, parfois, on a des images négatives, ouais. On se dit, ah, les gens aujourd'hui, et puis il suffit de faire une tournée voilà, littéraire ou humoristique comme toi, pour rencontrer des gens formidables, curieux, qui sont sensibles, qui ont une ouverture vis-à-vis des autres. Donc en ce moment, je vis ça, je prends le temps de le vivre. Je vais retourner à la traduction. Je pense que je vais repasser par la traduction pour retrouver la fiction. Moi, je n'enchaîne pas les livres. Mon dernier, Dans le faisceau des vivants, est paru il y a 5 ans. Et là, aujourd'hui, pareil, qui vive. Et entre deux livres, j'ai besoin de vivre les bouleversements du monde et mes propres bouleversements intérieurs. De les vivre pleinement avant d'aller vers un autre livre. Parce que pour moi, chaque livre, c'est l'occasion de me dire « je ne sais plus écrire ». J'ai l'impression, à chaque livre, que je dois tout réinventer. Mon rapport au langage, mon rapport à la façon dont on raconte une histoire, quelle musique je vais trouver, quelle voix je vais trouver pour raconter ça. À chaque livre, j'ai l'impression que je ne sais plus écrire. Et Et c'est la réalité aussi, puisque je n'ai jamais écrit le livre que je vais écrire. Donc en fait, je ne sais pas l'écrire. Et j'apprends à l'écrire en l'écrivant. Et pour retrouver cette mobilisation-là, cette énergie-là, qui est vraiment titanesque, parce que c'est réinventer en quelque sorte le rapport au langage, inventer une vie, inventer... voilà, trouver des personnages. J'ai besoin de passer par mes autres activités, on va dire, d'écriture, qui sont la traduction et les scénarios, qui me placent à un autre endroit du langage, des personnages. Et donc là, oui, je vais m'acheminer vers, je pense, la traduction et des scénarios dans l'année qui vient.
T'as bien aimé traduire Comment aimer sa fille, parce qu'en fait on a parlé beaucoup de maternité au début de l'épisode du podcast, et puis ensuite on s'est éloigné pour aller vers Qui vive, pour revenir un tout petit peu sur Ila Bloom, cette œuvre. Alors ça a été pour toi une expérience, parce qu'il est complexe, en même temps au fur et à mesure que tu traduisais, est-ce que ça t'étais un peu aussi bouleversée par cette histoire ou...
Oui, complètement, parce que alors moi juste là j'ai beaucoup traduit Aaron Appelfeld, et puis parfois dont j'ai traduit 13 livres. Et puis, j'ai fait quelques exceptions pour des livres précis qu'on me proposait et dont la traduction m'intéressait. Donc, je pense à des gens comme Michal Govrin, que j'ai traduit, qui est une femme extraordinaire. Et là, j'ai eu envie de traduire ce livre d'Ila Bloom, parce que j'étais curieuse de voir comment... On me l'a proposé pendant le confinement, d'ailleurs, je crois. Et je me suis dit, j'ai un espace, un moment, je peux me consacrer à ça, parce que c'est beaucoup de temps, la traduction. Ça exige vraiment une disponibilité. Et j'étais curieuse de voir comment j'allais trouver la langue de cette femme, de ce récit qui commence avec une scène très forte où, dans laquelle une mère, une femme observe en Hollande, à travers la baie vitrée, elle observe sa fille, qui a elle-même deux petites filles et un mari, et elle les regarde par la fenêtre, et on comprend qu'elle les épie, et qu'elle se cache, et qu'elle n'a pas vu sa fille depuis des années. Et cette scène assez énigmatique, avant différents retours en arrière, m'a vraiment attrapée. Moi, très souvent, c'est ça. Il suffit d'une scène et je me dis, là, il y a quelque chose que j'ai envie de traverser par la traduction. Et donc, je me suis embarquée dans cette histoire de Yoëlla et de sa fille, avec ses allers-retours, où on découvre peu à peu comment cette femme est devenue mère, qu'est-ce que sa fille a représenté pour elle lorsqu'elle était bébé, lorsqu'elle a commencé à grandir, lorsqu'elle est devenue ado. Et j'ai trouvé qu'Ila Bloom était très très forte dans sa manière de raconter. Ce sont des fragments très courts, c'est un livre je pense assez agréable à lire par sa structure d'instantané. Elle raconte des instantanés comme ça, des photos en quelque sorte de sa relation avec sa fille. Et je l'ai trouvé très forte dans la manière de montrer la complexité de cette relation, dont on se dit parfois, moi-même, quand j'écrivais, je me disais, mais alors, est-ce que c'est une mère complètement, réellement folle? Est-ce qu'elle est vraie? Enfin, Yoëlla, est-ce qu'elle est vraiment complètement...
Dévoratrice.
Voilà, dévoratrice. Et est-ce qu'il y a chez elle quelque chose qui réclame d'être prise en charge par la psychiatrie, carrément? Ou est-ce que... Et puis la page d'après, ou la phrase d'après, je me disais, en fait non, c'est simplement une mère. Elle est là, elle aime sa fille. Oui, quand elle arrive au monde, elle a l'impression que c'est une merveille absolue. Et oui, il y a cet amour qui est là, qui est puissant et qui peut faire éprouver des choses extrêmes. Et elle est vraiment sur le fil de petites choses qui semble normal et complètement fou. Et c'est peut-être ça, être parent. C'est être normal et fou en même temps. Parce que vraiment, je crois que quand on a des enfants, on sait que... Moi, je ne me définis pas du tout uniquement en tant que mère. Et tout à l'heure, je disais, je ne suis pas plus ceci que cela. Mais je suis aussi mère de deux enfants que tu connais, et qui sont grands maintenant. Et je sais... que cette relation-là agit à un endroit de moi qui est vraiment réservé uniquement pour ces relations-là que j'ai avec mon fils et ma fille, Et c'est un endroit de, d'amour, d'inquiétude, de d'étonnement, de curiosité, qui ne se compare à rien d'autre. Parce que ce sont les seuls êtres au monde que j'ai connus avant même leur arrivée au monde, que j'ai contenus, on va dire, et que j'ai connus dès leur arrivée, que j'ai vu naître. Voilà, ce sont les seuls. Et parce que donc il y a quelque chose qui reste même voilà maintenant qu'ils sont adultes, ils vivent leur vie. Moi j'aime vivre la mienne aussi, mais qui reste unique dans l'intensité de ce lien. Même quand je les vois pas, même quand je leur dis bah non là j'ai pas le temps. Enfin voilà, moi je suis pas une mère qui veut voir ses enfants tout le temps, qui veut et qui les appelle tout le temps forcément. Mais la force du lien, oui, elle est là. Et aussi parce qu'il y a pas à idéaliser les choses. Par exemple, quand je parle de folie, moi je suis plutôt réputée pour être quelqu'un de calme et posé, on va dire. Mais je sais que pendant des années, je me disais mais il n'y a que mes enfants qui sont capables de me mettre en colère d'une manière qui est inimaginable pour les gens qui me connaissent, y compris les gens qui me connaissent depuis 20 ans. Ils ont cette capacité-là, ils avaient cette capacité de me mettre dans des états de colère et de rage. Je crois que si on m'avait filmé à ce moment-là, on aurait été très étonnés de voir à quel point je suis capable de sortir de mes gonds. Et donc ce lien qui peut pousser comme ça à l'extrême, l'amour, la colère... La joie, la fierté, il est très intéressant. Ouais. Et il est présent dans Comment aimer sa fille.
Ouais, dans la. En fait, c'est même c'est marrant comme ce lien, au final, permet la fiction aussi. Enfin, et que ce soit la littérature ou même quand on lit Comment aimer sa fille, on voit un peu un film. On se dit au cinéma, ça serait ça le suspense en fait du spectateur, d'osciller entre est-ce qu'on s'identifie ou est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on est terrifié, est-ce qu'on est ce personnage ou est-ce que ce personnage va commettre un crime irréparable et est-ce que ce personnage est la catharsis de l'interdit, de ce qu'il faut pas commettre, ou est-ce que en fait ça joue avec ça, avec totalement, tout le temps, quoi.
Mais complètement. Quand on est une mère, est-ce qu'on est un monstre ou une fée, est-ce qu'on est
la sauveuse
est-ce qu'on est
l'héroïne. Alors,
dans les contes, par exemple, c'est souvent décrit par la marâtre,
la sorcière.
La sorcière, dans Blanche-Neige, par exemple. C'est elle qui prend la place de la face monstrueuse de la maternité dans les contes. C'est plus simple que de dire la mère. Mais il y a toujours cette question de se dire, et en fait, il n'y a pas de réponse. Et je pense que les enfants, quand ils sont capables, justement, d'avoir leur pensée personnelle, répondent à cette question toute leur vie et disent certainement, t'es peut-être un peu les deux. on t'aime, mais est-ce que tu nous insupportes parce que... la place d'un parent occupé auprès de son enfant est tellement forte dès justement la première seconde que ça peut pas être que bonne, évidemment, puisque c'est mais ça on peut on peut partir pendant des heures.
Je passe au petit questionnaire de Proust si t'as encore quelques minutes. La qualité que tu préfères chez un homme?
Sa douceur.
La qualité que tu préfères chez une femme?
Sa... peut-être... Sa gaieté.
Le principal trait de ton caractère?
C'est difficile de parler de soi, mais... la curiosité.
C'est sûr.
Je pense. Il me semble.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Leur générosité.
Ton principal défaut?
À une époque, je pense que je pouvais être très facilement de mauvaise foi. Voilà, je crois. Mais à force de le dire, je crois que j'ai travaillé là-dessus. Donc, je ne le suis plus. Très honnêtement, je ne suis plus de mauvaise foi. Alors que je pouvais l'être à une époque. Soutenir, j'avais raison et tout. Aujourd'hui, je dirais que mon principal défaut, je sais pas, de pas m'occuper mes papiers comme il faut. Enfin, c'est pas de la phobie administrative, mais disons que je suis très paresseuse quand il s'agit de s'occuper des papiers. Mmh. Je crois que c'est un défaut quand même. Hein. Est-ce qu'on peut le dire?
Ah bah, je le partage. Alors à 10 000%. Ton occupation préférée?
Ah, il y en a tellement, mais être avec les gens que j'aime.
Ton idée du bonheur?
Là aussi, être avec les gens. Non, mais en fait, moi, je suis moins sur le bonheur que sur la joie, en général. C'est-à-dire que je... le bonheur, c'est quelque chose qui est plus installé que la joie. La joie, c'est vraiment... Ça surgit, c'est... Ça peut être... C'est une intensité du moment. Alors que le bonheur, j'ai l'impression qu'il est plus lié à des conditions de vie qu'on installe un peu. Donc, je vais dire... voilà, bah, mon idée du bonheur, c'est un poème que j'avais découvert d'Apollinaire et qu'on peut mettre au... Enfin, qu'on peut renverser, mais où il disait « Je souhaite dans ma maison une femme ayant sa raison, un chat passant parmi les livres, des amis en toute saison sans lesquels je ne saurais vivre. » Et voilà, ben je peux écrire ce poème en disant « Je souhaite dans ma maison un homme ayant sa raison, un chat passant parmi les livres, etc. » Et c'est ça mon idée du bonheur.
Quel serait ton plus grand malheur?
Voir souffrir les gens que j'aime.
Où aimerais-tu vivre?
Là où je vis. Là où je suis, à Paris, perché dans le nord-est parisien.
Ce que tu détestes par-dessus tout?
Ah, la cruauté. Et parfois l'indifférence est une forme de cruauté aussi. Enfin, disons la cruauté sous toutes ses formes.
Comment aimerais-tu mourir?
J'aimerais bien être au courant à peu près une semaine avant.
Un petit head up.
J'aimerais bien le savoir. Voilà, moi, j'aimerais vivre le temps qui me reste à vivre, mais en bonne santé, en pouvant faire tout ce que j'ai envie de faire. Et j'aimerais bien savoir un peu, genre une semaine avant, et avoir le temps de...
D'aller dans tous tes restos préférés,
voilà,
avec
de
tous
dire
les
au revoir,
ouais,
etc. Donc, disons, j'aimerais bien mourir en ayant eu le temps de dire au revoir. Voilà, mais je crois que c'est pas vraiment possible. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, tant pis. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'aimerais que ce soit d'une manière qui fasse le moins de peine possible à ceux qui resteront après moi. Voilà.
Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel?
Joyeux, étonné et tourné vers la beauté sous toutes ses formes. Que ce soit là, par exemple, à la faveur de mes déplacements, parfois je trouve 2 heures, je suis allée au musée d'art contemporain de Bordeaux. Il y a une dizaine de jours, j'ai découvert un artiste contemporain qui s'appelle Jean Sabrier. Je ne connais rien vraiment à l'art contemporain. Je vais un peu à des expos, je connais Sophie Kahl, enfin, des grands noms. Mais là, le fait de découvrir une œuvre que je ne connaissais pas, un monde comme ça intérieur qui se déployait à travers des vidéos, des sculptures, des peintures, ça m'a fait un effet très, très profond de joie. Je me disais, je découvre quelque chose. Je découvre un artiste que je ne connaissais pas, je découvre une vision. Et donc, je suis très gourmande de tout ce que je vais découvrir dans les jours, les semaines, l'année qui vient.
Ça, c'est la joie de la tournée. Hein.
Oui.
C'est vrai que c'est... Parce que quand j'étais à Lyon, il y a semaine, je suis partie avec ma mère. Elle m'a accompagnée. C'est... Et on a profité d'une journée, peut-être parce qu'elle était là. Résultat, sinon, je serais peut-être restée dans un café à bosser. Mais on a fait une grande balade. Si, si, je m'étais baladée jusqu'à Fourvière. Mais je n'avais pas vu qu'à côté de Fourvière, il y a un théâtre gallo-romain.
Oui.
Magnifique.
Ah oui.
Magnifique. Et c'est aussi la joie de la France, quoi. De n'importe où, avoir cette richesse culturelle, avec des lieux aussi, des bons restaurants, des lieux sublimes, quoi.
C'est ça, ouais. C'est ça. Quand on sillonne la France, on voit la beauté de ce pays, de ses paysages, l'architecture, comme tu dis, les restaurants, les gens qu'on rencontre. Moi j'aime profondément la France, mais voilà, d'une manière, c'est ni du patriotisme, ni du nationalisme, c'est simplement la joie d'être dans un pays si beau et où il fait bon vivre par rapport à tant de pays dans le monde, quand même. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour des choses auxquelles on tient et qu'on ne veut pas voir détruire ou changer. C'est très important. Mais il y a des données, on va dire, fondamentales qui sont là, qui sont bonnes. Et donc oui, ça joue sur mon état d'esprit.
Merci Valérie.
Merci Rosa, merci beaucoup.
Et voilà, c'était Valérie Zenati. Comme j'aime ses réponses au questionnaire de Proust et son poème pour répondre à l'idée du bonheur, j'aime Valérie. Au-delà de tout son talent, c'est une amie et je suis infiniment heureuse de l'avoir reçue dans mon podcast. Je vous avais dit que je vous tiendrai au courant, ça n'a pas marché pour le gros casting, le rôle très important. Raison de plus pour venir voir mon rodage au Cartel les jeudis à 19h à partir du 7 mars. 6 petites dates exceptionnelles du nouveau spectacle où j'espère tant vous voir. Le stand-up, c'est ma raison de vivre. Je vous embrasse bien fort.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.